Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence 7, c'est l'heure de l'onde curieuse de ce jeudi 23 février. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Bonjour.
Et salut Sophie.
Bonjour, bonjour Sylvain, bonjour Quentin. Alors cette semaine, il y a du nouveau dans le chantier de construction d'un centre religieux à Saint-Pierre-de-Colombier. Après que la préfecture a autorisé la reprise des travaux au mois de novembre, le collectif d'opposants au projet, qui réunit des habitantes et des habitants, des associations, des syndicats, a déposé un recours en référé devant le tribunal administratif de Lyon.
Et oui, après de longues semaines d'attente, la demande a été déboutée ce mardi par le tribunal administratif. Aujourd'hui, on recevra Mary Tambour, qui est coprésidente de l'association pour l'avenir de la vallée de la Bourge, pour faire une petite mise au point sur la situation. Mais tout de suite, quelques actualités locales et culturelles.
Les mimosas sont en fleurs. Les premières fragrances du printemps qui sonnent la fin d'un hiver tout doux et désespérément sec, malgré le ciel couvert d'aujourd'hui. Une sécheresse hivernale sur toute la France qui pousse notamment les agriculteurs à réfléchir.
Et oui, puisque avec la fin de l'hiver, avec le printemps qui arrive, les arbres puisent énormément d'eau dans le sol et c'est une eau qui se fait rare. Les agriculteurs doivent se préparer à une saison et à un avenir d'ailleurs radicalement différent de ce qu'on appelle jusqu'ici la normale. Dans le Dauphiné libéré de mardi, le président de la Chambre d'agriculture d'Ardèche, Benoît Claret, déclarait que les agriculteurs et agricultrices devaient prendre conscience de ces enjeux, changer leurs pratiques pour éviter de consommer de l'eau, limiter l'utilisation de la ressource en bonne intelligence pour que tous les acteurs du territoire puissent travailler.
Donc, beau discours.
Voilà, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur le fond de ces changements de pratiques, hein, pourtant le temps passe. Une chose est sûre, c'est que l'avenir se joue au présent.
Ouais, ces changements de pratiques sont aussi au menu du Salon de l'agriculture de Paris qui ouvre ses portes samedi. La PAC 2023-2027 met en avant l'importance des petites exploitations respectueuses de l'environnement. Le ministre de l'Agriculture, lui, a tout de même tenu la semaine dernière un discours sur la nécessaire compétitivité de notre agriculture nationale.
Oui, alors qu'en fait, c'est bien un critère sur lequel on devrait lâcher un peu du lest, c'est la compétitivité. On voudrait surtout que le secteur survive et continue à nourrir des gens. Et du coup, d'ailleurs, à ce propos, pendant ce temps, la Confédération Paysanne d'Ardèche organise avec l'ADR07, je suis désolé, j'ai plus le sigle en tête, un salon à la ferme, donc ça vient en parallèle du Salon de l'Agriculture Nationale. On vous donne rendez-vous, rendez-vous est donné aux paysannes et paysans, mardi 28 à Desagnes, donc c'est pas à côté, mais ça vaut le déplacement, c'est sur la ferme du GAEC Bogues et Châtaignes, de 14h à 18h, afin d'échanger sur trois enjeux majeurs pour l'avenir de l'agriculture ardéchoise, la transmission des fermes de génération en génération ou de personne à personne, l'accès à l'eau, qui devient vraiment la question cruciale, et la relocalisation des productions. Donc c'est un rendez-vous important pour faire face aux défis de notre époque.
Oui, toujours dans la veine paysanne, ce dimanche 26 février à la Bégude, c'est la foire aux chevaux, organisée par le syndicat des chevaux de trait de l'Ardèche et le comité d'animation et de la culture de la Bégude avec le soutien de la mairie.
Et ouais, c'est intéressant aussi puisqu'on a de plus en plus recours aux chevaux là pour le débardage notamment. On avait évoqué la question au mois de janvier, mais ça, on y reviendra. C'est un outil vivant qui est de plus en plus utile et utilisé. Et donc la foire aux chevaux concerne seulement les équidés. Les autres animaux ne sont pas autorisés. Cette édition aura lieu sur la place des écoles à la Bégude à partir de 8h dimanche. Il y aura également cette année un concours « Devinez le poids du poulain » avec un panier garni à gagner, une mise de 1€ seulement. Donc au programme également des balades en poney, un camion céleri et des stands de vin chaud, de crêpes, d'affûtage. Côté musique et sorties culturelles pour cette fin de semaine, la première information, c'est l'annulation de la soirée Schubert Box qui était prévue au Quinconce vendredi en partenariat avec La Baume en Musique.
C'est bien dommage.
Ouais, c'est bien dommage. C'est un problème familial majeur d'un des artistes qui oblige l'annulation du concert. Les organisateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour... c'est impossible de reporter la date, donc les Quinconces s'excusent pour cette nouvelle et invitent les spectateurs et spectatrices à se manifester auprès d'eux pour se faire rembourser leur place.
Une occasion de découvrir un autre concert, peut-être le vendredi 24 février à 20h, au Centre social et culturel au fil de l'eau à Aubenas. L'association Les Concerts de Poche invite Tristan Pereira pour un concert de multipercussions qui revisite Debussy, Bach, Astor Piazzolla, des congas à la très grosse caisse en passant par les cymbales et bien d'autres. C'est assez intriguant. Le concert se conclura par une séance de dédicaces et un verre de l'amitié.
Donc rendez-vous au Centre culturel au fil de l'eau. Les tarifs sont de 6 euros tarif plein, 3 euros tarif réduit. Vous pouvez réserver par téléphone au 06 76 61 33 91 ou sur le site concertdepoche.com.
Ouais, concert de poche avec des tarifs de poche aussi. C'est pas mal.
Ouais. À la MOBA, du coup, à Bagnols-sur-Cèze, samedi 25 février, un concert en hommage à Carlos Santana par le groupe Jingo. Donc, si vous voulez groover sur du rock latino, c'est un groupe qui s'est formé spécialement pour l'occasion, qui rend hommage donc au guitariste de légende Carlos Santana en reprenant les plus grands thèmes de sa grandiose et prodigieuse carrière. Un moment unique dans une ambiance latino-rock à ne manquer sous aucun prétexte, nous dit-on.
Oh oui, samedi 25 février de 19h à 1h du matin, les places sont à 5 euros, la billetterie est sur place.
Oye, comment va ? Et on a reçu une invitation par mail, c'est ma dernière nouvelle culturelle, on a eu une invitation par mail pour les castings de l'émission « La France a un incroyable talent ». Alors tendez bien l'oreille, si vous aussi vous savez jouer du Mozart avec des bocs de châtaigne ou si vous êtes capable de tailler un cep de vigne avec vos pieds, manifestez-vous.
Oui, tout le monde peut tenter sa chance. Tailleur de vigne avec les pieds, danseur, humoriste, chanteur, magicien, artiste circassien, toutes sortes de choses, quoi. L'émission recherche des pépites et les castings auront lieu dans toute la région Rhône-Alpes du 13 au 15 avril. Les candidats seront invités à présenter un numéro de 2 minutes. Inscription par téléphone, quel numéro ?
Au 01 46 62 39 58. N'hésitez pas, voilà, je pense que vous trouverez aussi des informations sur La France a un incroyable talent, le site internet. Nous, on fait une petite pause musicale et on continue avec notre plateau du jour.
Baby,
On vient d'entendre Santana avec Evil Ways, un morceau qu'il avait joué à Woodstock en 69. C'est un petit hommage, un petit clin d'œil déjà au concert hommage qui aura lieu donc samedi à la MOBA. Et puis c'est aussi un petit clin d'œil Evil Ways, la quête spirituelle de certains en Ardèche.
Et oui, bah du coup, c'est l'heure de notre petit plateau. Bonjour Marie-Mary Timbourg.
Bonjour.
Bonjour Mary.
Bienvenue sur le plateau de L'Onde Curieuse. Vous êtes du coup la coprésidente de l'association Pour l'avenir de la vallée de la Bourge. C'est un avenir que vous voyez plutôt se dessiner sans basilicain.
Eh bien oui, hein, ça fait maintenant plusieurs années qu'on se bat contre ce projet, qu'on a découvert du coup au début de l'année 2019. Donc voilà, on a découvert ce projet complètement démesuré qui allait peut-être voir le jour dans notre village, petit village de 400 âmes.
Donc on rappelle, projet démesuré, hein, la création d'une basilique de 50 mètres de haut avec des infrastructures pour accueillir 3500 pèlerins, c'est ça?
Voilà, exactement. Et puis aussi la présence d'une passerelle piétonne qui desservirait la basilique.
Donc là, on est en 2019 quand vous prenez connaissance.
Voilà, début d'année 2019. Et puis, en mai 2019, les travaux commencent. Nous, entre-temps, on étudie un petit peu le permis de construire. On se rend compte qu'il y a des failles, notamment le fait qu'il n'ait pas coché la case comme quoi on fait partie du parc naturel régional.
C'est embêtant, oui.
Ouais, ça nous semble en tout cas à ce moment, enfin, ça nous semble très embêtant, effectivement. Comment le parc naturel n'a pas pu donner son avis sur un tel projet qui va forcément avoir un impact sur les paysages, sur la vie sociale dans la vallée, etc. Voilà, donc on s'interroge un peu sur tout ça et puis on essaye dans un premier temps de. D'informer la population, en fait, déjà de la vallée, de ce qui est en train de se passer et de ce qui risque de nous arriver si on ne se mobilise pas contre ce projet. Donc ça prend quand même la mobilisation. Il y a des gens beaucoup de monde quand même qui est étonné et qui s'insurge un peu contre ce projet. Donc on organise dans un premier temps des manifestations, aussi pour faire connaître le projet. On fait signer des pétitions. Voilà, on a un site internet. Voilà, après, on essaie aussi de rencontrer la préfecture pour comprendre aussi un peu. On souhaite être reçu pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est ce projet et faire valoir nos inquiétudes. Et finalement, on n'est jamais entendu. Et en juin 2019, du coup, il y a un groupe de militants écologistes qui décide d'envahir le chantier, quoi.
Ils s'emparent de la question et ils passent à l'action.
Exactement. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que c'est finalement ce qui nous a permis d'être entendus par la préfète de l'époque, Madame Soulimane, puisque jusque-là, elle n'avait pas daigné nous recevoir. Donc cette occupation de chantier a duré 48 heures, mais nous a permis d'être reçus en préfecture, avec également le parc naturel régional. Suite à différentes réunions en préfecture et avec l'intervention du ministère de l'écologie, la préfète prend un arrêté pour suspendre les travaux en attendant la mise en conformité du dossier par le porteur de projet, donc la famille missionnaire Notre-Dame.
Et du coup, deux ans se sont passés sans que les pelleteuses reprennent leurs travaux et ça nous a amené jusqu'à... Donc du coup, alors ça a été suspendu pendant 2 années, vous êtes restés un peu sur vos gardes et en novembre de l'année dernière, donc en novembre 2022, la préfecture, le nouveau préfet qui est arrivé entre-temps, Thierry de Vimeux, autorise discrètement la reprise des travaux parce que la famille missionnaire a fourni l'étude d'impact environnemental sur 4 saisons qui leur était demandée.
Voilà, exactement. Donc nous, on savait très bien que les travaux étaient arrêtés, suspendus uniquement par cet arrêté préfectoral pris à l'époque et que ça pouvait reprendre si effectivement une étude était remise et que le préfet la considérait à son goût. Et donc, faut savoir qu'on savait qu'une étude avait été remise courant 2022. On réclamait cette étude, notamment par le biais de notre avocat, afin d'avoir, de pouvoir avoir un avis dessus, de pouvoir l'analyser aussi. Et on n'a jamais eu de réponse de toutes nos demandes d'accès à cette étude. Et effectivement, donc, en fait, tout début décembre, on apprend que le préfet a pris un arrêté suspendant l'arrêté précédent, enfin donc autorisant la reprise des travaux, dans la presse. On a à nouveau contacté la préfecture pour savoir comment c'était possible. Donc on sait qu'il y a une étude environnementale, on la demande, sachant que l'arrêté donc date du 29 novembre, on a 2 mois pour le contester, et donc jusqu'au 29 janvier, et on reçoit finalement enfin cette étude environnementale 5 jours avant le délai légal de contestation, quoi.
Et de ce que j'ai retenu, moi, c'est que ça n'a pas été très compliqué à éplucher. En fait, c'est une étude d'impact qui était assez succincte.
Alors du coup, effectivement, elle a été analysée par un spécialiste écologue qui travaille pour l'Association nationale pour la biodiversité. Et effectivement, ce qu'il en ressort, c'est que...
C'est très très léger.
C'est assez léger. Enfin, dans les dossiers qu'il a pu, lui, analyser avant ça, au vu du nombre de pages, c'est plutôt léger.
Mais c'est sur la base de cette étude... que le préfet a décidé de lever l'arrêté précédent.
Oui, voilà.
D'accord. Et du coup, donc votre association a déposé à ce moment-là un recours en référé au tribunal administratif de Lyon, qui donc a été débouté en ce début de semaine. Mais ça, c'est un recours sur la forme.
Alors oui, c'est un recours dans un premier temps, en fait, donc c'est un recours en référé suspension. Donc en premier lieu, rapidement, la forme passe au tribunal pour éventuellement arrêter à nouveau rapidement les travaux si l'arrêté préfectoral n'était pas jugé conforme. Donc pour ça, notre demande a été rejetée. Par contre, c'est un dossier qui va être aussi traité sur le fond, et ça va prendre encore plusieurs mois avant de pouvoir avoir une réponse effectivement sur le fond du dossier.
C'est ça. C'est-à-dire que la contestation ne s'arrête pas là. Là, vous avez eu donc mardi une réponse, mais sur la forme, mais la suite. Et c'est ça qu'on aimerait entendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer après ? Donc vous attendez justement un jugement sur la forme.
Sur le fond, pardon.
Merci.
Donc on attend le jugement sur le fond. Ça, pour l'instant, on n'a pas de date. Ça va être dans quelques mois. Mais par contre, la semaine prochaine, on a de nouveau une audience au tribunal administratif. Là, cette fois-ci, c'est un recours que nous avons déposé auprès du préfet il y a quelques mois maintenant pour une demande de retrait du permis de construire.
Qui se fonde sur quels éléments ?
Notamment sur les anomalies de l'instruction du permis de construire, notamment sur cette appartenance au parc naturel régional qui n'a pas été prise en compte. Et sur l'impact sur des espèces protégées qui a pu avoir lieu, espèces et habitats d'espèces protégées, étant donné que le permis de construire, avant ça, il n'y a pas eu d'étude complète, quoi. Il y a eu une toute petite étude sur 2 jours qui fait que l'impact sur les espèces ou sur les habitats n'ont pas pu être évalué correctement. Quoi.
Ah oui, donc le permis de construire qui est encore en vigueur aujourd'hui, c'est celui qui avait été déposé en tout premier lieu en 2019.
Oui, tout à fait. Il a juste été complété par la récente étude environnementale qu'ils ont déposée.
D'accord. Et au même moment, l'Association nationale pour la biodiversité a déposé un recours légal aussi au tribunal pénal.
Alors, c'est une plainte qui a été déposée.
Ouais.
Une plainte pour... Enfin, elle n'a pas encore été déposée. Hein. Elle va l'être dans les semaines ou les, enfin, les jours, les semaines qui viennent. Donc, une plainte pour destruction d'habitats d'espèces protégées par les travaux qui ont déjà eu lieu, notamment. Donc, pour l'instant, il y a déjà la passerelle qui traverse... passerelle piétonne qui traverse la rivière. Elle est déjà construite. Donc il y a déjà eu tous les maniements dans la rivière pour les piles de la passerelle, etc. Qu'on imagine qu'ils ont pu détruire des habitats protégées dans la rivière.
Donc ça, c'est une plainte qui est déposée pour les travaux qui ont déjà eu lieu déjà eu lieu.
Voilà.
Et en les accusant d'avoir créé des dégâts.
Voilà.
Et du coup, là, les artisans qui travaillaient sur le chantier ont pu effectivement reprendre les travaux. Ils sont... Parce que au début, là, pendant ces 2 années, pour l'artisanat local, ça ne doit pas être évident de savoir sur quel pied danser dans un dossier qui est aussi incertain. Là c'est effectif. Il y a des engins qui sont revenus, il y a des ouvriers, des artisans qui reprennent.
Alors pas ça a pas repris tout de suite après l'arrêté préfectoral du 29 novembre, mais là aujourd'hui oui ça depuis je dirais peut-être une dizaine de jours, les travaux ont repris pour l'instant sur le parement d'un mur de soutènement. Voilà.
Moi, j'aimerais juste rebondir. Alors, je me fais peut-être un petit peu la naïve de service, mais c'est vrai que tu parlais d'incertitude, Quentin. C'est vrai que ça paraît tellement incertain parce que donc il y a toutes ces procédures qui sont juridiques qui sont en cours et j'allais dire dans le même temps, cette basilique n'a pas reçu l'aval de l'évêché. Hein, l'évêque de Viviers et même Rome n'autorise pas la création de cette basilique. Alors je me dis mais ils ont un permis de construire, donc ils vont construire quelque chose, mais sans même l'autorisation de l'autorité hiérarchique. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, je vous pose la question à vous.
Mais... Bah, de toute façon, effectivement, c'est une question que nous aussi, on a du mal un petit peu à élucider, parce que malgré tout, ils le disent régulièrement dans les médias, que pour l'instant, ils ne construiront pas l'église, pour l'instant, ils parlent d'église, sans l'aval de l'évêque, qui effectivement a émis un décret... interdisant la construction dans les mesures, dans la taille actuelle du projet. Un décret qui a été du coup validé par Rome. Voilà. Donc ça aussi, pour nous, c'est un peu un flou, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ils reprennent des travaux sur des bâtiments d'accueil, sur... une station de retournement pour les bus, etc., pour une église pour laquelle ils attendent encore l'aval des autorités religieuses.
Enfin, ils attendent l'aval, ils attendent un retournement.
Un retournement, oui, tout à fait, parce que là, il y a un décret qui a été publié.
Donc, ils poursuivent dans l'incertitude, ils poursuivent.
Oui, tout à fait. Ils n'ont pas de réponse autre que... qu'on attend
un changement de pape.
Oui, c'est un peu ça, ils ne le disent pas comme ça. Mais
c'est une congrégation qui est assez indépendante, je veux dire, ils relèvent de Rome et de l'évêché, mais ils ont aussi leur propre raison d'être. C'est pas la première fois, en plus, qu'il y a un projet de la famille missionnaire qui devait se dérouler dans le village et qu'une association de citoyens a mis en échec. C'était un projet religieux aussi par le passé.
Je suis pas sûre. Je crois que c'était plutôt un projet pour augmenter leur capacité d'accueil.
Ouais, avec un parking, ouais. Je crois. Il n'y avait pas d'édifice religieux, mais c'est quand même dans le contexte d'accueillir plus de pèlerins et d'accueillir.
C'est une grosse association du village qui souhaite. Qui souhaite faire venir ses membres, en fait. en fait, on peut même plus exactement parler de, comme on peut pas mentionner, on peut plus parler de basilique, on peut pas parler d'église puisque l'évêché n'est pas d'accord non plus. Donc pour l'instant, c'est plus qu'une association avec des gros moyens qui essaye de faire venir plus de membres, quoi.
Oui, c'est ça, oui. Bah après, eux, ils sont persuadés que, justement, leur communauté attire du monde et va attirer dans l'avenir de plus en plus de monde. Et c'est par ça
Ils légitiment un peu leur entreprise par ça, non ?
L'idée
que ça fait venir.
Ils disent qu'ils vont avoir ce besoin-là, que ça va être une nécessité pour. L'amélioration de l'accueil de leurs pèlerins, de leurs amis dans l'avenir.
Ils estiment aussi, vous me disiez, que ça va faire venir du monde, ça peut générer des emplois, des retombées économiques positives pour la vallée.
C'est l'un de leurs arguments, cet argument économique de développement de la région, de développement de certains types de tourisme.
Effectivement, c'est l'argument des pro-projets, quoi, de leurs sympathisants locaux, en tout cas, c'est que ça va, amener un développement économique pour la vallée, faire fonctionner les entreprises pour la construction, mais puis aussi après pour l'accueil des pèlerins, etc. Sachant que, nous, ce qu'on reproche aussi, c'est que c'est un aspect qui n'a jamais été évalué.
Voilà. Ça, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est un argument un petit peu magique qui est sorti, mais sans aucun fondement fouillé, réel, argumenté, étayé.
C'est absolument pas argumenté, absolument pas évalué. On n'a jamais. C'est juste dit comme ça. Ça va apporter. Un avantage économique pour la vallée.
Le mot magique.
Ouais, c'est ça, c'est un peu un lieu commun du tournant du 21e siècle que n'importe quelle construction et lieu d'accueil nouveau va générer par ruissellement et par miracle. Sûrement par miracle, il doit y avoir une dimension un peu comme ça. va générer des revenus et des retombées économiques positives et créer des emplois. Aujourd'hui, avec les circonstances écologiques et économiques qu'on traverse, ça mériterait peut-être d'être un peu plus étayé. Éprouvé, quoi.
Quand tu parles de miracle, justement, il y a aussi toute la question du financement du projet qui est énorme, où on se pose des questions aussi sur ce financement et où justement, c'est financé par des dons, mais il nous parle aussi de la providence.
Oui, c'est ça.
Dans le financement de. Donc, ça aussi, c'est une question qui a été posée aussi à l'État, au préfet, et la question a été aussi posée au ministre de l'Intérieur. Sur le sujet du financement, quoi.
D'où viennent ces fonds, c'est
ça ? D'où viennent ces fonds ?
Parce que c'est 18 millions d'euros, c'est
ça ? Voilà, c'est évalué, oui, 18 millions d'euros, mais sachant qu'entre-temps, vu l'augmentation des prix des matériaux, l'inflation, etc., c'est un projet à 18 millions d'euros il y a 6 ans.
Ça peut vite atteindre presque le double aujourd'hui, quoi. Et puis c'est une association qui bénéficie des réductions d'impôts quand ils reçoivent des dons. Donc
c'est des dons qui sont défiscalisés. Donc effectivement, ça aussi, ça nous interroge sur. Sur cette participation finalement de l'État indirectement à la construction de ce projet.
Oui, ça crée un gros manque à gagner parce qu'avec 60% de déduction fiscale sur 20 millions d'euros, ça fait quand même.
Oui, ça commence à chiffrer un peu.
Ça fait quand même un chiffre qui n'arrivera pas dans les poches de l'État alors que peut-être que les donateurs. Auraient pu payer des impôts à hauteur de ces 12 millions d'euros là qui risquent de disparaître. Pour la suite des événements, la suite du combat, vous aviez réussi à réunir quand même beaucoup d'associations, de syndicats, même de politiques autour de cette résistance. Vous attendez qu'est-ce qu'on peut attendre?
Eh ben oui, effectivement, là, il y a des syndicats, le Parti socialiste, la CGT, la Libre Pensée. Enfin, ils sont nombreux à nous soutenir et à se remobiliser, en tout cas, là, à cette reprise des travaux auprès de nous. Et ben, là, je dois dire que comme il y avait deux échéances, là, l'une sur l'autre, donc celle de lundi dernier et puis celle qui arrive jeudi prochain, ben, on attend un peu maintenant jeudi prochain le jugement donc, de notre recours contre le permis de construire. Donc pour l'instant, on n'a pas encore d'action prévue ou quoi que ce soit. Mais voilà, on est aussi un peu en train de se retourner de tout ça et peut-être prévoir une journée, une mobilisation, une journée festive.
C'est ça. Là, vous êtes encore dans le temps juridique, toute cette bataille juridique qui
prend aussi du temps, parce que, mine de rien, il a fallu analyser aussi cette étude environnementale un peu au dernier moment. Enfin, tout ça, ça prend du temps.
Et est-ce que donc on voit, c'est vraiment un sujet très complexe, très piégeux. Moi, je suis aussi stupéfaite que une association comme la famille missionnaire, qui a déjà été pointée par la Miviludes pour certaines pratiques dangereuses, puisse continuer. Enfin, il y a sur énormément de sujets, donc écologiques, éthiques,
la laïcité,
sur un financement problématique. Enfin, il y a quand même énormément d'impasses. Enfin, il pourrait y avoir énormément d'impasses. Ma question, c'est est-ce qu'on sait un peu qui soutient ce projet? Est-ce que vous êtes en mesure de savoir un petit peu quels sont les soutiens de la famille missionnaire? Est-ce que c'est la famille missionnaire seule ou est-ce qu'il y a d'autres soutiens?
La famille missionnaire seule, non. Après, exactement leur soutien, c'est vrai qu'on se pose toujours un peu la question, effectivement. Un tel projet avec une telle ampleur, c'est une réponse qu'on n'a pas vraiment. Hein. Qui sont les soutiens un peu costauds derrière ce projet, en fait, hein. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'on s'interroge sur tout ce que vous venez de citer, hein, les suspicions de dérives sectaires, le financement. C'est des inquiétudes qu'on a en tant qu'habitants aussi du village et de la vallée.
En tout cas, merci et merci à l'association pour ce combat.
Ben merci à vous de m'avoir reçu.
Oui, merci Mary, merci Sophie. On s'approche doucement de la fin de cette émission. On vous tiendra au courant, auditrices, auditeurs, des suites de ce dossier. Je vais essayer aussi de contacter un peu les artisans qui travaillent sur ce chantier pour savoir comment ils se positionnent face à autant d'incertitudes, comment ils arrivent à investir ou à avoir une vision d'avenir sur les travaux. On vous tient au courant, c'est la fin doucement de cette onde curieuse. Sophie, la suite du programme aujourd'hui sur Fréquence 7.
Parole de citoyennes et citoyens à 13h et ensuite à 15h.
Le Telex, n'oubliez pas que la boîte vocale de Fréquence 7 est toujours à votre libre disposition au 04 75 93 30 25.
Si vous avez loupé une partie de Paroles de citoyennes et citoyens, pas de panique, à 16h, c'est la rediff.
Si vous avez raté le début de l'onde curieuse d'aujourd'hui, elle revient à 17h.
Et à 18h, la collective, nouvelle émission par le collectif du 8 mars, qui aura lieu tous les 2e et 4e jeudi. Et ça, on est très contents, la collective. On va parler quand même des sujets féministes, mais pas que.
Et oui, et le collectif des femmes du 8 mars organise le 8 mars un rassemblement et une manifestation à Aubenas. On aura l'occasion d'en reparler plusieurs fois.
Merci beaucoup Sylvain, merci Mary Tambour, merci Quentin.
Et bien merci la vie, et à bientôt, passez une belle après-midi et profitez des quelques gouttes de pluie.
Ciao.